On en parle.
Quel baladeur numérique acheter ou partir pour les prochaines vacances? Nos ados vivent souvent un véritable enfer lorsqu'il s'agit de faire des choix, sans oublier bien sûr la difficulté de choisir entre un métier et une formation à la sortie de la scolarité obligatoire. Alors comment expliquer ce phénomène? Peut-on aider nos enfants à se positionner? On va en parler ce matin avec Frédéric Philippin et une invitée, c'est Pascale Roux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach pour adolescents à Genève et dans la région de Nyon. Cette indécision, c'est un phénomène auquel vous êtes souvent confrontés lors de vos consultations?
Oui, c'est effectivement très fréquent. C'est fréquent aussi bien d'ailleurs chez les adolescents que chez les adultes. L'indécision, ça peut aller d'une simple hésitation entre deux choses à un véritable conflit interne. C'est quelque chose qui peut être vraiment profond, pas seulement une difficulté à faire un choix, mais vraiment un vrai conflit. Ces conflits d'ailleurs peuvent s'installer sur de la distance, c'est-à-dire que ça peut durer plusieurs mois. Par exemple, dans un accompagnement d'adolescents, on peut observer que les jeunes hésitent entre des différents choix, simplement parce que derrière, il y a un impact important, il y a un domaine important, notamment dans les choix professionnels, bien sûr. Donc ces conflits internes, il y a souvent derrière, en arrière-plan, un conflit émotionnel, au niveau émotionnel, et c'est en général l'émotion qui va être le moteur, ou au contraire le frein. Donc derrière le choix, on attribue souvent aux adolescents le fait d'être pas motivés, flemmards, mous, incapables de se positionner. Et en fait, on se rend compte que si on interroge un petit peu l'adolescent, que derrière cette indécision, cette ambivalence, il y a une vraie difficulté à choisir sa voie. Donc imaginez qu'on se trouve à un carrefour et puis on ne sait pas si on doit prendre à droite ou à gauche.
Mais vous arrivez à l'expliquer, cette ambivalence ?
Alors, l'ambivalence, en fait, c'est l'idée de vouloir une chose et son contraire, ou en tout cas quelque chose qui paraît être son contraire. L'ambivalence, imaginez que vous avez des parties de vous à l'intérieur. On n'est pas un bloc, chaque individu se trimballe avec des parties qui veulent parfois des choses différentes. Donc l'ambivalence, imaginez, à gauche, je voudrais aller dans une direction, puis à droite, il y a une autre partie de moi qui tire. Donc en fait, l'ambivalence, elle peut avoir plusieurs formes. Elle peut avoir la forme la plus agréable, c'est j'ai deux choix devant moi, mais les deux choix sont positifs. Je suis au restaurant, j'hésite entre les pâtes et la pizza. Au bout du compte, je sais que je vais me faire plaisir. Donc, de toute façon, les deux choix sont positifs. A contrario, il y a les deux choix sont négatifs. C'est-à-dire, je cherche à éviter deux situations qui sont désagréables. Alors, c'est pas très sympa, mais globalement, ces deux ambivalences-là, ces deux types d'ambivalences, trouvent relativement facilement leur résolution. Parfois, il suffit juste de se poser un petit moment, puis de réfléchir, on pèse le pour, le contre, et puis on finit par trouver une solution. La véritable ambivalence, celle à laquelle vraiment j'accorde une importance très importante au niveau de la consultation, c'est l'ambivalence où, dans un même choix, j'ai un avantage et un inconvénient. Et là, ça devient beaucoup plus problématique parce que la personne se trouve en train de dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Parce que si j'y vais, j'obtiens des avantages, mais j'obtiens aussi, en contrepartie, des inconvénients. On trouve ça notamment beaucoup dans les addictions, c'est-à-dire ne serait-ce que la fumée, le tabac, où un adolescent va vous dire j'ai envie d'arrêter de fumer parce que je sens bien que c'est pas bon pour ma santé, mais en même temps j'ai pas envie. Donc il y a derrière ces deux aspects-là, en fait il y a des valeurs qui sont accrochées derrière, et au niveau émotionnel, le jeune va être pris dans un conflit de valeurs. Et c'est là que ça devient difficile pour lui. Et c'est là que ça demande un vrai travail d'écoute et d'accompagnement autour de qu'est-ce que veulent ces deux parties qui tirent dans des sens opposés.
Frédéric Philippin.
Alors, on peut comprendre assez facilement que le choix d'un métier est peut-être très, très compliqué. Ça va avoir des répercussions sur l'ensemble de la vie de l'adolescent. Moi, je comprends moins les hésitations devant deux paires de chaussures ou la sortie du samedi soir. Des hésitations que n'ont pas seulement les ados, il faut bien le dire aussi.
Non, on trouve ça aussi effectivement chez les adultes. Il y a cette idée. C'est vrai que de l'extérieur, quand on regarde ça, on se dit mais c'est une paire de pompes. Pourquoi ils hésitent tant autour d'une paire de chaussures ou de savoir s'ils vont sortir à telle boîte ou telle boîte? Donc c'est vrai que l'extérieur, ça n'a pas beaucoup de sens. En fait, ça va dépendre essentiellement de l'accroche qu'il y a derrière, c'est-à-dire la représentation qu'a le jeune de la paire de chaussures. C'est-à-dire si c'est une paire de chaussures qui lui permet juste de protéger son pied pour marcher, globalement, il n'y a pas d'investissement affectif et il y a probablement peu de résistance ou peu d'hésitation. En revanche, si la paire de chaussures est pour lui une manière d'avoir un style, de se donner une contenance, d'appartenir à un groupe. Là, on va sentir derrière ce choix de chaussures, ben, il y a des valeurs, il y a une association et une identité. Donc c'est sûr que du coup, le choix va être beaucoup plus ben, problématique et surtout, il y a un impact. C'est-à-dire, si je ne choisis pas la bonne paire de pompes, ben, je ne serai pas associée à l'image que je me fais de moi-même. Donc derrière, il y a des représentations. Donc c'est vrai que, plutôt que de dire « mais qu'est-ce que tu nous casses les pieds avec tes histoires de chaussures ?» C'est le cas de le dire. Mais de dire « mais en fait, qu'est-ce qui se passe pour toi ?» Qu'est-ce que ça veut dire cette paire de chaussures? Quelle est la représentation que tu en as et qu'est-ce que tu vas en faire?
Un ado qui veut par exemple acheter un baladeur numérique, il a un large éventail de choix. Il est submergé par la publicité, dans les journaux, à la radio, dans les boîtes aux lettres. Est-ce qu'on peut finalement encore lui reprocher ses hésitations?
Bon, je crois qu'on ne peut pas reprocher à personne une hésitation. Hein. Je crois qu'on a le droit d'hésiter à un moment donné. Je crois qu'effectivement, on vit dans une société dans laquelle on passe notre temps à avoir des informations sur des produits. Et puis, comme ils sont tous en concurrence, en plus, ils sont tous les mieux les uns que les autres. Donc là, il va falloir se positionner, il va falloir apprendre à se positionner. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu, hein, si vous écoutez un petit peu le message publicitaire qu'il y a derrière un slogan, c'est cette idée que si vous achetez ce produit, vous n'allez pas vous tromper. Ça veut donc dire que si vous en achetez un autre, vous vous trompez. Donc, il y a cette idée, on véhicule de manière inconsciente, bien sûr, l'idée qu'en achetant un produit, ce qui est quand même un choix relativement léger, on prend le risque de se tromper. Ça, par contre, ça ne l'est pas. Ça n'est pas léger. La peur de se tromper, de faire une erreur, de ne pas avoir fait le bon choix, elle est viscérale chez nous tous, hein, y compris chez les adultes. Donc le message publicitaire de « attention, ne vous trompez pas », met de la pression là où il ne devrait pas y en avoir, met un enjeu là où il n'y en a pas. En fait, le seul enjeu, il est au niveau de l'annonceur. C'est lui qui a quelque chose à perdre, pas tellement le consommateur. Et en fait, on a inversé la tendance autour de « attention, ne vous trompez pas », alors qu'en fait, il n'y a pas ce problème au fond.
Un choix beaucoup plus délicat, c'est le choix d'un métier ou d'une formation scolaire lorsqu'on a 14, 15 ans, 16 ans, avec des possibilités aussi bien scolaires que professionnelles qui augmentent d'année en année. C'est difficile pour l'adolescent d'y voir clair. Est-ce que l'école, c'est un peu facile, hein, mais est-ce que l'école ne devrait-elle pas mieux les aiguiller, ces ados?
Moi, je pense que l'école ne peut pas tout faire. Hein. C'est vrai que bon, y a des conseillers en orientation qui sont là pour ça. C'est vrai que c'est difficile pour les adolescents. Ils arrivent à 14-15 ans, ils doivent se projeter dans une vie d'adulte et puis choisir une voie professionnelle en se disant en arrière-plan, je vais faire ça toute ma vie. On sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'on va changer probablement de métier plusieurs fois dans sa vie. Mais globalement, il y a un enjeu important. Les jeunes que je reçois en consultation disent souvent, je me forme dans un métier mais je ne l'exercerai probablement pas. Donc, il y a un vrai enjeu et on demande à des adolescents qui ne savent pas encore vraiment qui ils sont ni ce qu'ils aiment de s'engager dans une voie qui va teinter leur vie. Donc c'est un choix difficile pour eux et je me mets souvent à leur place, je me dis mais moi à 15 ans je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc vraiment là j'ai de l'empathie pour eux et de la compassion. Ce qui me paraît important là dans un moment comme celui-là, alors l'école bien sûr elle a un rôle, mais l'école elle a surtout un rôle d'enseignement, hein, pas forcément un rôle d'orientation. En revanche, le rôle de l'école, c'est peut-être juste de permettre aux adolescents de s'interroger sur eux-mêmes, c'est-à-dire être capable de faire des choix, c'est s'interroger sur soi. Donc de se positionner, d'apprendre à se positionner, ça peut faire partie du travail de l'école. Donc c'est apprendre qu'un choix d'abord n'est pas dramatique, c'est-à-dire qu'on peut se réorienter à chaque instant dans sa vie, heureusement, et qu'on peut refaire des choix même plus tard. Et ça permet de lever un petit peu la pression qu'on peut avoir à 15 ans.
Les parents, comment ils peuvent aider leurs enfants à prendre des décisions, à trancher?
Ah, je vais déjà dire ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que dans l'ambivalence, la première chose à ne pas faire et à ne surtout pas faire, c'est quand un adolescent dit bah, « j'ai envie d'une chose et j'ai envie de son contraire », de ne pas renforcer une des deux parties. Le premier réflexe quand quelqu'un vous dit « j'hésite entre deux choses », c'est vous allez vous positionner à sa place en disant « ah, tu voudrais arrêter de fumer ?»« Ah, bah, c'est super, arrête de fumer !» Et puis, ça va automatiquement renforcer l'autre partie. C'est-à-dire la partie qui résiste. Et on rentre dans un jeu qu'on connaît bien quand on accompagne les personnes, c'est dans le jeu du oui-mais. C'est-à-dire que, oui, il a envie d'arrêter de fumer, mais il y a la partie qui résiste. Le oui-mais, donc, c'est l'expression de cette partie qui résiste. Si on est juste dans la dévalorisation de la partie qui résiste en disant « Ah ouais, mais c'est parce que tu es autodestructeur, donc puisque tu es autodestructeur, forcément, tu veux qu'on va continuer à fumer. » Mais non, pas du tout. Interrogeons les gens, c'est-à-dire mais aussi bien les ados que les adultes. C'est qu'est-ce qui fait que tu n'as pas envie d'arrêter de fumer? La partie de toi qui résiste, en fait, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? Et si vous interrogez vraiment la personne, si vous écoutez vraiment ses motivations, vous allez trouver derrière l'idée de « Ah ben, quand je fume, ça me fait plaisir, c'est un moment pour moi, ça me donne une contenance, ça me permet d'être plus sûre de moi. » Et puis, ben, ça, vous ne trouvez pas que c'est important? Moi, je trouve que c'est fondamental. Donc, c'est accueillir cette partie qui résiste en disant « Ok, donc pour toi, fumer, ça te permet de te sentir plus sûre. » Ben, ça, c'est très important. Je comprends que tu hésites à arrêter. Est-ce qu'on peut imaginer que tu peux trouver d'autres manières de te sentir plus sûr de toi? Est-ce que tu peux trouver d'autres manières que de te faire plaisir qu'en payant moins le prix pour ta santé? Et on va chercher derrière la motivation de cette partie qui résiste et du coup retrouver un terrain d'entente entre les deux.
Pascal Roux, merci. Je rappelle que vous êtes coach pour adolescents à Genève et dans la région de Nyon et vous répondiez à l'invitation de Frédéric Philippin.
Merci.
Radio Suisse romande la première, on en parle sur rsr.ch.